20 minutes avant la fin du monde. Le podcast d'autodéfense écologique.
Salut la compagnie! Au début de l'aventure de 20 minutes, nous vous avions fait une promesse. Ensemble, nous allions bien nous marrer. Ensuite, on vous a parlé d'urgence climatique, de sixième extinction de masse, de tipping point. Vous savez, là, ce point fatal, là, mon cœur s'accélère avec lequel ça fait boule de neige, c'est la grosse cata. Oui, bon, bref, on s'est pas beaucoup marré. On a parlé aussi d'éco-anxiété et même tout récemment de mort. Bon, ok. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on a oublié cette promesse initiale? Hein, Sarah?
Non.
Hein, Antoine? Non, nous sommes là pour vous le dire en cœur. Nous affirmons notre choix d'adopter un ton léger, de rejeter l'esprit de sérieux, de rire plutôt que de pleurer, alors que nous abordons de nombreux sujets qui sont effectivement pas toujours franchement rassurants. C'est de ce choix, qui n'a rien d'une évidence, que je vous propose de discuter aujourd'hui. Est-ce que nous sommes toujours à l'aise avec ce choix? Pourquoi est-ce qu'on a choisi d'en rire? Et de quoi rit-on d'ailleurs? C'est ce que nous verrons avec Antoine.
Bonjour tout le monde.
Notre grand pourfendeur de l'esprit de sérieux. Et avec Sarah.
Bonjour à tous.
Notre apôtre incontesté de l'église de la rigolade.
Alors ça définit très bien Sarah d'ailleurs, je dois dire.
J'ai une première question à vous poser à tous les deux. Est-ce qu'il y a déjà un sujet qu'on a traité dans 20 minutes ou ailleurs d'ailleurs, dont vous n'aviez pas forcément envie de rire au premier abord?
Pour moi, la question se pose pratiquement pour tous nos sujets, hein, parce que quand on parle, je sais pas, par exemple, de la pollution au chlordécone dans les Antilles, de la canicule, de la guerre ou de l'extrême droite, en fait, on parle de violence et de souffrance, d'inégalité et d'injustice. Donc, comment en parler sans se moquer des personnes qui subissent tout ça, sans faire croire que c'est en fait une bonne tranche de rigolade et que c'est pas si grave que ça? En fait, c'est une tension permanente avec celle de pas raconter n'importe quoi. Mais bon, de notre côté, on écrit pas non plus des sketchs, hein. Tu l'as dit, Sonia, notre style à nous, c'est plutôt de faire passer les préoccupations politiques de l'écologie dans la chaleur d'une conversation entre amis.
Ouais, complètement, c'est vraiment ça l'objectif, c'est essayer d'être sympathique et décontracté au micro et pas un peu chiant.
Qu'en vrai, on n'est pas du tout sympa, hein, c'est juste tout ça, c'est vraiment du flan.
Non, mais pas être chiant et moralisateur. Moi, il y a le sujet sur lequel ça a été peut-être le plus dur d'essayer d'être parfois un peu léger ou d'envoyer une petite vanne, c'est quand on a parlé de guerre et écologie et on a parlé de la guerre en Ukraine. Je pense que la proximité temporelle et géographique fait que c'est particulièrement lourd d'être léger à ce moment-là.
Ouais, moi, si je rebondirais sur un mot que tu as employé, Sarah, c'est le mot moralisateur. On l'a souvent dit dans cet épisode, c'est pas forcément un choix, c'est le hasard de nos affinités qui le fait. On est tous plus ou moins parisiens, en tout cas urbains, même si je suis nantaise aujourd'hui, ça reste une grande ville. On a toujours un peu peur d'avoir le risque de ce rire urbain qui donnerait le sentiment d'un sens de supériorité et de mépris face à d'autres. Et en vrai, c'est tout ce qu'on veut absolument éviter.
Oui, il y a de la légèreté, des petites blagues. Parfois, je suis obligé de me moquer de la passion de Sarah pour les SUV. D'ailleurs, on en rigole, mais j'en profite. Je sais qu'on enregistre, mais quand même, on pourrait en reparler et on pourra couper ça au montage s'il faut. Mais tout à l'heure, je débarque pour enregistrer. Et franchement, Sarah, bon, on mettra pas ça dans l'épisode, je pense. C'est vraiment abusé. Hein. Pour SUV garé sur une piste cyclable et moteur qui tourne. Alors, je m'avance, hein, plutôt furieux. Vous imaginez, je tape à la vitre, toc toc, bonjour. Elle se baisse la vitre et ton chauffeur me dit que Madame Sarah demande que le moteur continue de tourner quand le SUV est garé pour que la clim soit à la bonne température quand tu montes dedans.
Mais tu sais ce que c'est la galère depuis qu'il y a toutes ces pistes cyclables
non,
pour
dis-moi.
Se déplacer à Paris
en
SUV.
Ben oui, c'est compliqué quoi. Non, en vrai, on s'aime beaucoup, mais surtout parce qu'on prend un gros chèque à chaque épisode. Hein, mais ça, faut pas le dire trop fort.
Bon, ce que je voudrais par quoi on commence aujourd'hui, c'est de se demander ça veut dire quoi rire de quelque chose et quels sont les types de rire.
Et oui, alors peut-être on va faire un peu d'histoire. Hein. Maintenant, c'est 2000 minutes avant la
oui,
fin du monde.
Oui, 2000 ans presque.
Ouais, j'aime bien remonter dans l'Antiquité, quoi.
Voilà. Et donc, dans l'Antiquité, il y a deux philosophes qui vont incarner deux attitudes un peu opposées face au monde. C'est Démocrite et Héraclite. Et donc, tous les deux vont reconnaître le désastre du monde que nous reconnaissons finalement un peu aussi hein, dans 20 minutes avant la fin du
Même
monde.
Même s'il n'y avait pas d'urgence écologique à l'époque. Hein.
Exactement. Mais Démocrite, lui, Polybe va se rire de ce cours de l'humanité, alors que Héraclite, lui, va s'en affliger.
Voilà, ils sont souvent représentés ensemble, d'ailleurs, c'est marrant de le noter.
Alors qu'ils ne se sont jamais
voilà,
croisés.
Ils sont jamais croisés. Bah, c'est d'autant plus difficile que Démocrite, lui, est mort en 370 avant Jésus-Christ, et Héraclite, de son côté, presque un siècle auparavant, donc un peu compliqué de se croiser, à part peut-être sur des bols et quelques mosaïques.
Ouais. Alors, pourquoi il riait, Démocrite ?
Oui, ce qui est intéressant sur le rire de Démocrite, c'est que c'est un rire solitaire, en fait. Il vit un peu, il vit en ermite, et il va rire de l'attitude des hommes qu'il regarde au loin. Et puis aussi, il va y avoir une forme de pitié envers ces hommes. En fait, le monde, pour lui, ce sont des fous et des enfants contre lesquels
on dirait
va,
une chanson va pas... de française.
Bon, le monde, ce sont des fous et des enfants.
Daniel Balavoine ou Michel Delpech.
Il n'y a pas de colère, voilà, plutôt de la pitié. Mais ce rire, voilà, comme on peut le voir, il n'est pas très joyeux.
Non,
il y a des rires pas très joyeux, finalement.
Oui, ce rire, même, on le voit bien et on le verra dans l'épisode. Je pense il y a un rire, il y a des rires. Hein, quoi. Il y a plusieurs manières de rire. On ne rit pas de la même chose selon les groupes dans lesquels on est. Il y a des blagues qui sont autorisées dans un contexte et qui deviennent totalement inappropriées dans un autre.
Ouais, et il y a.
Ça va, je te sens.
Il y a quelques rires qui sont quasiment universels, j'ai envie de dire.
Oui,
par exemple, un prout. Ouais. Un prout, ça fait toujours rire.
Ou une chute.
Je te sentais venir sur ce sujet, Sarah.
Ou une chute quand quelqu'un tombe, on a
ça
quand même un peu
rire.
Envie de se marrer. Bon,
ouais. Donc, c'est blague à part, moi, les rires de chute, parce que. J'ai grandi, j'avais.
Tu t'aimais pas vidéo gag.
Voilà, exactement, c'est de ça dont je voulais parler.
Ouais,
exactement. Il y avait vidéo gag pas mal, genre à la fin, milieu 90, fin 90. Hein, c'est une période dans laquelle j'étais déjà vivant, vu mon grand âge. Et effectivement, je ne comprenais pas le fait que les gens se poilaient. Alors, il y a des gens qui tombent dans la rue sur des plaques de glace. Tu vois bien que la chute est forte et qu'ils se font mal. Eh ben moi, je suis désolé, ça me fait pas mal.
Je suis un peu comme toi.
Voilà. Bah, moi, je suis partie des gens qui rigolent quand je tombe.
Ah, oui,
je
ça,
suis
c'est différent.
Tellement
ça, c'est...
de rire. Voilà. Et puis, je regarde d'un coin de l'œil les autres qui ne rigolent pas.
Ça,
bon.
c'est différent, c'est de l'autodérision. Quoi.
C'est vrai. En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que du rire de la blague scatophile et salace au jeu de mots un peu fin et spirituel, il y a tout un monde. Il y a des rires qui sont considérés comme plus sérieux aussi, comme l'ironie, la caricature, la satire, qui vont même aller jusqu'à la politique. Il y a un rire donc qu'on pourrait caractériser d'engagé.
Oui, et ça, c'est pas nouveau. Hein. On peut penser à des gens comme Coluche, Guy Bedos, à Charlie Hebdo ou bien d'autres, hein, d'ailleurs beaucoup plus anciens. Mais voilà, là, on voulait peut-être se pencher un peu sur le rire écolo.
Oui, le rire écolo. Alors en fait, effectivement, il y a plein d'exemples. C'est une histoire qui est longue, qui est très riche, etc. Il y a une revue dans les années 70 qui a commencé à apparaître, qui s'appelle Survivre et Vivre. Donc pendant quelques années, dans cette période-là, c'est une revue qui va structurer une critique du scientisme. Hein, donc c'est une foi placée dans la science, du militarisme ou encore du productivisme et de la consommation. Et en fait, il y avait souvent des dessins, des caricatures en couverture ou dans les pages. Et il y a une de ces caricatures que j'aime bien, c'est dans le numéro 16. Hein, attention, c'est précis. Hein. Mmh. Alors c'est un patron d'usine qui se plaint. Alors il dit, je le cite, hein, c'est la catastrophe, la production tombe en flèche, mes ouvriers sont tous malades, affaiblis, leur production baisse chaque jour un peu plus. Et là, surgit un type en costume très sûr de lui qui lui dit, vos ouvriers mangent mal, tout simplement, patron. La nourriture industrielle mine leur santé, ne leur permet pas de refaire leur force de travail. Vous devriez essayer la nourriture biologique, saine et naturelle. Alors on est vraiment dans les années 70. Le patron essaye, c'est la dernière case, et là c'est un triomphe. Il lève les bras et dit que grâce à la nourriture bio, bah, les ouvriers sont devenus sains et vigoureux et la production repart à la hausse. Moi j'aime bien cette caricature. La chercheuse Céline Pessis a coordonné tout un super livre aux éditions L'Échappée sur le mouvement Survivre et Vivre parce qu'elle montre que des changements d'habitude sans changement de système contribuent à renforcer le système, ici productiviste et capitaliste, plutôt que de remettre en cause, et le dessin nous aide à comprendre ça.
Bah, merci Antoine de nous avoir mis en image une caricature, c'était pas simple. Donc on entend rarement en fait, malgré la caricature que tu nous as décrite, les militants écolos se fendre la poire pendant leur passage radio ou télé. Les formats, faut le dire, les astreignent souvent à déplier des argumentaires carrés, fondés sur des chiffres, il s'agit de convaincre en peu de temps. Pourtant, surtout parmi les jeunes, ils sont de plus en plus nombreux à prendre le risque de ne pas être pris au sérieux. Et on sait que d'ailleurs, ce risque de ne pas être pris au sérieux, c'est une tension qui traverse la gauche depuis au moins le 19e siècle. Je sais qu'Antoine a quelque chose à nous en dire.
Je suis d'accord avec toi, Sonia. Et par exemple, l'historien Thomas Boucher, dans un livre, on parle dans un livre qui s'appelle « Les fruits défendus ». En fait, cette tension, c'est une tension entre un courant qui défend l'ascétisme et un autre courant qui défend la sensualité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dire l'ascétisme, ça veut dire que faire l'amour, faire la fête, manger, rire, explorer, vibrer de tout son être, en fait ce serait se détourner du combat social méprisé, la souffrance, tomber dans un piège qui détourne de la révolution pour préférer sa propre vie, ses petites jouissances, son plaisir immédiat, etc. Mais Thomas Boucher en parle très bien, il y a un autre courant, celui qui défend la sensualité. La sensualité comme une manière de pratiquer et faire advenir le socialisme. Alors ça peut être des choses très différentes, ça peut être de danser, de pratiquer le naturisme, de boire un verre de vin, de faire du sexe. Ou de contempler tout simplement un paysage ou un jardin. Et donc, dans ce courant, il y a un lien qui fait entre la libération du corps, la relation au sens et au plaisir, et le renversement de la domination et de l'ordre établi.
Et d'ailleurs, on va le voir plutôt assez récemment. D'ailleurs, on va avoir de plus en plus, surtout de jeunes militants écolos qui vont utiliser le rire pour faire passer un certain nombre de messages. On peut penser à certains humoristes, comme par exemple Swann Périssé, qui est une influenceuse écolo, ou alors par exemple au Greenwashing Comedy Club. Donc, c'est un club de stand-up fondé en 2020 par Anne Dupin. Ils vont pas parler que d'écologie, mais ça va être quand même très central dans leurs sketchs où ils vont vraiment jouer sur la gêne, les contradictions perpétuelles, l'ineptie du petit geste. Donc on va vraiment utiliser le rire, mais pour faire passer un certain nombre de messages. Et puis on peut penser
au cinéma,
voilà, à Don't Look Up par exemple.
Ouais, bien sûr, alors on en dira un mot, mais aussi il y a différentes comédies écolo. Alors c'est pas le genre qui produit des, il y a pas des dizaines de comédies écolo, mais si je regarde un petit peu ce qui a pu me faire rire moi ces dernières années côté cinéma français, en 2022 il y a une comédie qui s'appelle En même temps, je sais pas si vous l'avez vu.
Si, je l'ai vu, ouais.
De Benoît Delépine et Gustave Kervern. Alors, je vous la fais courte, mais c'est l'histoire d'un maire de droite décomplexé, comme il le dit, interprété par Jonathan Cohen, qui essaie de corrompre un autre élu écolo, Vincent Macaigne. En fait, le maire veut construire une forêt, il veut détruire une forêt millénaire pour construire un village loisir. Alors, il a des sacrés arguments. Il dit à l'élu écolo, l'emploi, il lui dit que l'eau des piscines à vagues sera recyclée pour l'arrosage des terrains de golf, etc. Et à la suite d'une péripétie, les deux élus vont se retrouver collés ensemble, par un collectif de militants féministes surnommés les Call Girls, Call comme la colle, C-O-2-L-E, mais voilà, ils vont plus pouvoir se séparer. Donc voilà, c'est un film que moi j'ai trouvé assez drôle là-dessus.
Au-delà des humoristes et des films, on trouve aussi beaucoup, de plus en plus, de dessinateurs sur le sujet. Est-ce qu'il y en a qui vous plaisent particulièrement?
Moi, je peux pas m'empêcher de citer Ulysse Gris, qu'on avait reçu ici pour un épisode pour sa BD La Revanche des espèces menacées. Donc c'est les animaux menacés qui vont se rebeller contre les hommes qui détruisent la planète, et il a fait une nouvelle BD très récemment qu'on vous conseille, sur le réchauffement climatique, qui s'appelle Pour quelques degrés de plus, aux éditions Presque Lune. Et il va imaginer trois scénarios de réchauffement à plus 2, plus 3 et plus 4 degrés, qu'il va appeler les scénarios à point, bien cuit et carbonisé. Voilà l'ironie de ce champ lexical de la cuisine pour ôter un peu de gravité à un sujet pourtant très lourd qu'on aborde.
Oui, il y a plusieurs types d'exemples à prendre, par exemple, il faut aussi se rappeler la force du canular. En fait, tout ce qu'on raconte là, donc autour du film, des bandes dessinées, du canular, etc., en fait, il y a un point commun qui relie ces choses, c'est celui de dénaturaliser, de nous montrer que ce qui est présenté comme une évidence, comme un air du temps, etc., en fait, repose sur des tas de conceptions et qu'on peut déplacer le regard. L'humour, en fait, permet cette chose, le fait de rire, c'est de dire, attendez, ça va créer du décalage.
Oui, c'est intéressant ce que tu dis, Antoine, puisque là, on a vu des humoristes qui vont s'emparer de l'écologie, et là, l'exemple du canular, c'est l'inverse, ça va être des mouvements écolos qui vont se saisir de l'humour et en l'occurrence du canular pour faire passer leurs idées.
Oui, un exemple de canular géant dont j'avais pas entendu parler moi, mais que je trouve très très impressionnant, c'est un collectif qui a envoyé des courriers d'expropriation.
Incroyable cette histoire.
À peu près 3000 personnes, 3000 courriers envoyés en leur disant en fait vous allez devoir quitter votre logement parce que vous êtes sur la route du tracé d'un futur oléoduc qui va rejoindre Bruxelles, Rouen, Lyon, Grenoble et Marseille. Et en fait l'objectif du collectif, c'était de faire vivre aux gens ce que vivent réellement des personnes en Ouganda ou en Tanzanie à cause du projet du vrai oléoduc, ICOP de Total. Et donc, on est entre l'action militante, politique, artistique. D'ailleurs, le collectif s'appelle Artiviste. C'est comme ça qu'il se nomme. Et donc, on utilise la dérision pour essayer de faire comprendre ce que peuvent vivre d'autres populations et d'alerter sur un projet assez terrible.
Ouais. Et au-delà des collectifs militants, il y a aussi la communication institutionnelle qui s'empare de l'humour avec l'ADEME qui a fait cette communication que vous avez peut-être vue, qui s'appelle Les Dévendeurs, et je crois qu'il y a beaucoup marqué Antoine.
Alors, qui a marqué, je dois annoncer quand même un conflit, non pas d'intérêt, mais pour rendre les choses publiques, l'ADEME est un des financeurs de ma thèse, mais sachez que je ne suis pas payé pour dire ce que je vais vous dire dans à peu près deux secondes. Moi, c'est une campagne que j'ai trouvée efficace. Tous les petits clips sont accessibles en ligne. Hein. C'est quelqu'un qui vient chercher un appareil ou acheter un vêtement, il interroge quelqu'un qui est le dévendeur et qui va déconseiller l'acte d'achat, soit en proposant la réparation, ou soit par exemple quelqu'un qui vient acheter, je ne sais plus si c'est un pull ou un polo, et un polo, il lui dit mais pourquoi un nouveau polo, le polo que vous avez sur vous, il est très bien quoi. Donc ce que je trouve amusant, c'est que ça vient questionner l'acte de consommation. J'aurais bien aimé voir des vendeuses, hein, et voilà, c'est la critique que je ferai. En tout cas, c'est un clip qui a fait parler de lui avec des réactions négatives des fédérations de commerçants et au gouvernement.
Bruno Le Maire, ouais. Qui s'en est plaint.
Ouais, il y a eu un vrai tollé côté du ministre de l'économie et puis côté de la fédération du commerce qui ont jugé ça maladroit et que ça allait faire du mal au petit commerce. Faut quand même rappeler qui fait vraiment du mal au petit commerce quand on pense aux grosses boîtes pour acheter en ligne ou des choses comme ça. Hein.
Alors, on l'a vu, l'humour est bien entré dans le champ de l'écologie, mais pourquoi faire ? À quoi ça sert ? Pourquoi mettre de l'humour ? Pourquoi rire de ces choses qui sont pourtant pas très drôles en réalité ?
La première chose, hein, c'est peut-être pour mettre à distance la gravité des choses. Hein. L'humour, la légèreté, ça a un but quand on parle de situations très lourdes et dramatiques face auxquelles on est un peu impuissant. C'est donc mettre à distance pour que... Pour pouvoir en parler plus facilement.
Ouais, digérer, faire face à nos émotions. Enfin, pour beaucoup d'entre nous qui avons à un moment donné, alors à des moments différents de nos parcours, commencé à lire, à nous documenter, à écouter des podcasts, des scientifiques, etc. Il y a aussi des moments de choc émotionnel. Hein. C'est quand on comprend l'ampleur de ce qui se passe avec le changement climatique, des violences que ça occasionne, etc. Donc, en fait, il faut savoir aussi, le rire, va nous aider à peut-être aussi absorber les choses, digérer, comprendre, mettre en perspective.
Ouais, lutter contre l'éco-anxiété qui nous guette tous. Moi, je me souviens d'un dîner chez ton frère, Antoine, où on avait parlé d'urgence climatique. Alors, je ne sais plus précisément du sujet pendant tout le dîner. Et à un moment, je me suis sentie, mais littéralement, physiquement pas bien. Et j'ai dû aller m'allonger sur le canapé. Et franchement, c'était pas drôle. C'était un vrai sentiment d'oppression physique. Et quand on fait les épisodes, je me dis toujours, c'est horrible. Et en même temps, le fait d'en rire permet quand même de traiter psychologiquement l'information et de la considérer.
Oui, ça permet le rire aussi d'attraper. Tu en parlais, Sarah, à propos de ces activistes, d'aller chercher de l'attention, de créer à un moment donné, de faire parler de soi.
Oui, et peut-être aussi le rire peut permettre aussi d'aller chercher un public plus large qu'un public qui s'intéresse vraiment à la question écologique, d'un public un peu sachant ou un peu militant. Et nous, quand on a créé 20 minutes avant la fin du monde, en voulant y placer un ton un peu léger, on avait cet objectif-là aussi, et puis aussi d'aller chercher des gens qui écoutaient d'autres podcasts de Fréquence Moderne comme 2 heures de perdu et qui ne s'intéressaient pas forcément au départ à l'écologie, mais essayer d'aller les chercher par un ton un peu similaire.
Voilà, de ne pas vous dégoûter d'emblée. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque à rire de ces choses-là ? Est-ce qu'on risque pas de les mettre trop à distance, de les dédramatiser ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
C'est toujours un risque, hein, et c'est le risque de l'humour quand on parle des sujets écologiques, quand on essaie de les traiter à la fois sérieusement mais aussi avec un ton qui peut être un petit peu léger. En fait, c'est la question, c'est à qui s'adresse cet humour, que prend-il pour cible? Est-ce que c'est un humour qui va prendre pour cible des personnes qui déjà cumulent les problèmes sociaux, les inégalités, etc., ou est-ce que c'est un humour qui va plutôt cibler des personnes qui sont dans des positions dominantes? Donc je dirais, c'est le risque. En fait, il faut aussi se poser la question du type d'humour, de la manière dont tout ça circule.
Oui, alors là, t'es pas vraiment dans la prise de distance, ce que tu dis, c'est intéressant, c'est une autre critique, c'est une critique, l'ironie qui va presque citer le discours du dominant, qui va du coup pointer un certain type de personnes qui sont déjà en fragilité.
Ouais, et sur la mise à distance, c'est le risque un peu de s'habituer aux choses, en fait, et à force de rigoler du fait que ça va être la fin du monde, on va s'habituer à la possibilité que ce soit la fin du monde, et puis tant pis, on va plus agir. En fait, il y a une forme d'habitude qui va s'installer avec le rire, avec la blague, etc. C'est peut-être ce risque-là auquel il faut se méfier.
Ouais, moi, j'y vois une sorte de mécanisme que je qualifierais de compréhension, mais au sens étymologique du terme, à force de rire des choses, on les prend avec soi. C'est vraiment l'étymologie du mot compréhension, et ça finit par être assez dangereux parce qu'à force de les visualiser dans notre tête en riant, quand même, d'une certaine manière, je peux pas m'empêcher de me dire qu'on les dédramatise un peu. Et je voudrais aussi citer, tout à l'heure, Sarah, tu parlais du Greenwashing Comedy Club. Donc, ils se produisent, ils font des stand-up dans différents endroits, publics ou privés. Mais ils vont aussi se produire devant des entreprises comme Engie, qui leur demandent désormais d'intervenir dans des événements corporate au ton plus léger. Et le journaliste d'un article qui raconte tout ça conclut, car... même dans le monde très premier degré de l'entreprise, l'humour se répand tel une herbe invasive. Et pour moi, je peux pas m'empêcher d'y voir, même si c'est sans doute une initiative positive, une bonne intention, j'y vois quand même une belle opération de greenwashing. Le jour où chez Total, on est dans la dystopie, et je pense qu'ils refuseraient, mais le jour où Guillaume Meurice interviendra devant les employés de Total, je sais pas si c'est une totale bonne nouvelle.
Oui, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait que je vous parle d'un petit projet, d'une invitation qu'on a reçue pour intervenir à la prochaine AG de Total Energy.
Que tu as accepté, bien sûr.
Voilà,
on avait besoin de flouze.
Ça devrait payer les vacances des 10 prochaines années. Non, effectivement, sur l'humour, sur la capacité de mettre en distance, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, en passant le film Don't Look Up d'Adam McKay. Alors là, c'est une histoire qui est un petit peu un miroir grossissant de tout ça, parce qu'on va suivre justement deux scientifiques qui essaient d'alerter parce qu'une comète va entrer en collision avec la Terre dans 6 mois. Et en fait, voilà, la métaphore de la comète va grossir l'inaction climatique, parce qu'en fait, les deux scientifiques, Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio, vont être confrontés à des tas de gens qui vont minimiser, se moquer, détourner l'attention. Donc eux aussi sont victimes d'un humour qui va tourner en dérision le message sérieux. Donc on voit bien, quand je disais tout à l'heure, qu'est-ce que cible l'humour, en fait là, le moment où ils sont sur le plateau télé et on voit bien qu'ils n'arrivent pas à faire passer leur message,
et on les accuse compliqué. Et justement à ce moment-là, on les accuse d'être trop sérieux, de ne pas amuser la galerie.
Joie.
Tout à fait,
complètement.
Et j'aimerais revenir aussi sur ce type d'humour très particulier dont tu parlais tout à l'heure, Antoine, qui est l'ironie, où malgré tout, même si c'est souvent drôle, on va citer le discours de dominant, lui donner une place, le laisser entendre, et qui à mon sens pose quand même quelques problèmes.
Déjà, une première difficulté avec l'ironie, c'est qu'elle implique que les autres comprennent le code, et d'où parfois on se sent obligé de faire une petite blague et dire c'est de l'ironie. Donc il y a une forme de connivence.
On explicite l'ironie quand elle n'est pas comprise.
Oui, exactement. Et donc elle demande de la connivence et de partager les mêmes conventions. C'est une manière aussi, mais il y a une forme d'appartenance aussi, et l'appartenance, elle peut être positive, mais elle peut être négative parce qu'elle exclut ceux qui ne vont pas comprendre cette ironie.
Ouais, et avec le risque que je citais au départ, de mépriser les autres, ceux qui sont extérieurs à ce code partagé.
Oui, là-dessus, un exemple qu'on peut peut-être prendre, je serais content de connaître votre avis, c'est un jeu auquel j'ai joué également, donc je m'inclus dans la question, en se demandant qu'est-ce qui est pris pour cible. C'est le jeu Blanc manger coco, qui repose sur un mécanisme d'outrance, où en fait ça va construire des phrases homophobes, racistes, parce que c'est sous couvert d'humour et d'ironique, et aussi un prétexte à dire des choses qui sont qui ont à la fois pas de sens.
Moi, je suis totalement d'accord avec toi, Antoine. Pour moi, ce jeu est un prétexte à dire les pires horreurs, sous prétexte que c'est de l'humour et qu'on passe un bon moment entre blancs, d'ailleurs, pour le dire assez vite. Et je voudrais aussi revenir sur notre refus. On essaye d'ailleurs de refuser certaines expressions ironiques, d'employer certaines expressions comme l'islamo-gauchisme, islamo-gauchias, féminazie.
Alors il y a un dictionnaire entier, on pourrait continuer des heures.
Et c'est très drôle, et d'ailleurs certains humoristes comme Walidia le font de manière extrêmement drôle parce qu'ils arrivent à le distordre. Mais néanmoins, quand on emploie ces mots, encore une fois, on cite le discours dominant, on cite la critique et on lui donne une place qu'on veut pas toujours donner.
Oui, je suis d'accord avec toi, Sonia. On en profite bien sûr pour inviter Walidia à nous rejoindre autour du micro.
Avec grand plaisir.
À une prochaine occasion. Et c'est vrai qu'on est partagé, on a souvent discuté de ça toutes et tous ensemble. Reprendre ces mots pour s'en moquer, c'est se réapproprier ce stigmate pour le détourner de l'autre. Aussi, c'est même en se moquant, faire circuler ce terme, donc on essaie de ne pas le faire, et parfois c'est plus fort que nous. Il y a aussi une autre étiquette qui vise à délégitimer la critique, c'est le wokisme dont on parle. On met dans un même sac des tas de choses qui n'ont rien à voir, et on dit tout ça c'est du wokisme et c'est hyper dangereux, pour créer un ennemi de toutes pièces, et un ennemi d'autant plus menaçant qu'il est flou, insaisissable et partout.
Ouais, et puis peut-être dire qu'on dit pas qu'il faut arrêter l'ironie, c'est pas ça le but, mais c'est juste essayer de prendre un peu de recul sur et de réfléchir, décortiquer le langage, les codes, les automatismes. en ce qui nous concerne. Et peut-être que ben il y a quelque chose qui est encore plus fort que l'ironie. Enfin, c'est l'autodérision, c'est savoir se moquer de soi-même, savoir
de voilà, ses défauts, avoir, de ses incohérences.
Et par exemple, ben, je pense notamment aux gens qui font du stand-up. Je pense qu'il n'y a jamais rien presque de plus drôle que quelqu'un qui a un vrai recul lucide sur lui-même et qui s'en moque.
Mmh. Et ben revenons justement sur l'utilité du rire, voir quelle puissance décortiquante et urticante il a à la fois pour avoir ce regard lucide sur soi-même et sur le collectif.
Oui, mais... bah, c'est la lucidité hein, du rire qui peut être très, très puissante. C'est être capable déjà d'émettre une réflexion sur soi-même, le monde dans lequel on vit, ses excès, absurdités, non pas pour s'en exempter et dire bah, « voilà, moi, je suis au-dessus de ça », etc., mais aussi bah, pour voir ses propres limites. C'est ce que tu disais, Sarah, sur l'autodérision.
Et puis peut-être aussi parler de ce rire subversif, parce qu'en fait, le rire, c'est le début de la révolution. C'est quand la machine va un peu dérailler. Moi, je pense par exemple à une époque il y avait les carnavals où c'était le moment de l'inversement des valeurs, le bouffon devenait roi, on avait droit de se moquer d'ailleurs du roi des religieux à ce moment-là et donc voilà il y a quelque chose de subversif, bah même tout à l'heure je parlais du prout, même une blague scato va être subversive et ça c'est une puissance du rire.
Ouais, rire des puissants, c'est forcément les faire descendre de leur piédestal, et c'est d'ailleurs pour cette raison très politique que dans les comédies classiques du XVIIe siècle on ne mettait jamais des rois en scène dans des comédies ou des dieux. Alors eux on laissait la place des tragédies, et puis dans les comédies on n'avait que le bas peuple ou les bourgeois.
Et puis enfin peut-être l'une des choses les plus importantes, et c'est pour ça que nous sommes là,
oui,
tous ensemble,
tout à fait,
c'est que rire de sujets graves à plusieurs, ça peut être aussi une forme de soulagement, de savoir qu'on n'est pas seul, qu'on se soutient, qu'on est ensemble, et voilà, il n'y a rien de plus beau que de rire tous ensemble.
Ah Sarah, c'est comme ces mots sonnent doux à mes oreilles, tu le sais. Non, en fait c'est le mot ensemble aussi qui est très fort, hyper important à mes yeux, et par rapport au rire en plus on pourrait entendre quand même cette petite musique qui constituerait à nous dire que c'est jamais le bon moment de rire. Effectivement, aujourd'hui, il y a le changement climatique, mais aussi la guerre en Ukraine, la mort de dizaines de milliers de personnes en Palestine. Rien de tout ça ne donne envie de rire, évidemment. Et en même temps, il faut aussi continuer à nous questionner, à défendre nos idées, nos libertés. On en parlait dans notre épisode sur la démocratie. On en parlera dans un épisode sur la démocratie, l'autoritarisme, je crois, dans deux semaines. Et puis, je voudrais dire là-dessus que c'est aussi une question ancienne dans la lutte politique. C'est en fait cette idée des priorités dans le combat. Et en fait, très souvent, on peut considérer qu'il n'y a pas de priorité, que tout est prioritaire en un sens. Et là-dessus, il y a deux personnes, Olga Bronikova et Mathieu Renaud, qui en parlent dans un livre récent qui est consacré à une militante communiste qui s'appelle Alexandra Kollontai, et qui, elle, voulait défaire la famille traditionnelle, reconstruire l'amour et la relation entre les sexes, en pleine révolution soviétique. Et elle aurait pu se dire que c'était pas le moment de défendre tout ça en pleine révolution, mais c'était justement parce qu'on était en pleine révolution qu'il fallait se battre pour ce renversement total des dominations, de la maternité, de la sexualité. Donc voilà, on peut pas se mettre sous cloche et dire c'est fini, on se roule en boule, etc. Ce qui serait aussi une position totalement fataliste, qui renseignerait aussi sur nos privilèges hein, parce que nous, voilà, notre pays ne va pas être englouti, disparaître sous la mer. Donc on n'a pas d'autre choix que de se battre. Et de se battre, ça passe aussi par être en lien avec les autres, rire et nous donner de la force.
C'est vrai. Alors pour conclure, je crois qu'on peut dire que oui, mille fois oui, le rire est nécessaire à la lutte. Si nous étions plus sérieux ou plus pédants, qui est un autre synonyme peut-être, nous aurions pu citer tout plein de philosophes qui ont fait du rire l'objectif même de la philosophie. C'est le cas de Nietzsche, par exemple, qui a canonisé le rire et enjoigné les hommes supérieurs à apprendre à rire. Alors, je sais pas si on est supérieurs, en tout cas, on n'est pas des hommes pour deux d'entre nous, mais on peut dire que rire, c'est lutter, c'est refuser le destin tragique, c'est faire dérailler le système, c'est dire non à cet esprit de sérieux qui nous bouffit d'orgueil et de vanité, cet esprit d'orgueil qui a pu faire croire à l'homme qu'il était supérieur aux autres animaux. Non, rire, c'est affirmer que nous ne sommes pas grand-chose et que c'est merveilleux. C'est nous réjouir de notre face de macaque. C'est jouir du bonheur qu'il y a à être vivant au milieu de tous ces autres êtres humains et non humains. C'est qui, eux aussi, ont en partage cet immense privilège d'une bonne poilade. Parce que oui, contrairement aux idées reçues, les animaux aussi rient.
Et puis, on se retrouve bientôt pour continuer à rigoler un peu ensemble.
Oui, à dans 15 jours.
À bientôt.